de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon l'ambassadeur palestinien, le plan de paix de Donald Trump est injuste. Les députés s'accordent sur le Brexit le 31 janvier. L'Organisation mondiale de la santé tiendra à nouveau une réunion d'urgence pour discuter du coronavirus. Pour intensifier la coopération, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo, rencontre le ministre russe de la Défense. Les citoyens indonésiens qui sont évacués de Chine seront mis en quarantaine. Selon Luhut Binsar Panjaitan, MotoGP Mandalika promeut le tourisme indonésien. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassadeur palestinien aux Nations Unies, Riyad Mansour, a déclaré que le plan de la paix élaboré par le président américain Donald Trump était injuste. Par conséquent, la Palestine restera opposée au plan controversé du président américain Donald Trump pour la paix au Moyen-Orient. La Palestine opposera à l'accord de paix américain avec une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mansour a été cité par l'agent Anadolu jeudi a déclaré que les autorités palestiniennes augmenteraient leur position d'opposition dans les semaines à venir. Le député approuve l'accord de démission du Royaume-Uni de l'Union européenne au Brexit le 31 janvier, mais ils ont averti que le Royaume-Uni n'existait pas trop lié aux négociations économiques avec la raison de maintenir des bonnes relations à l'avenir. Comme rapporté par Associated Press jeudi, la décision a été prise par un vote et d'après les résultats de vote, 621 membres du Parlement européen ont approuvé l'accord sur le Brexit proposé par le Premier ministre Boris Johnson. 49 ont refusé. Mais cela ne garantit pas les bonnes négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. La présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que si cela se produit, il est à craindre qu'il y ait un chaos économique en Europe pendant la période de la transition à la fin de 2020. L'Organisation mondiale de la santé tiendra à nouveau une réunion d'urgence sur la propagation du coronavirus interhumain. L'OMC avertit tous les gouvernements du monde entier de prendre des mesures contre le virus qui se propage depuis la Chine. L'Organisation mondiale de la santé a appelé jeudi à une réunion d'urgence pour déterminer si une épidémie de virus devait être déclarée urgence sanitaire mondiale ou non. La réunion peut conduire à une coordination internationale accrue. Le président de l'OMC, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par Channel News Asia jeudi, a déclaré que le nombre croissant de cas et de preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine était alarmant. Bien que le nombre de personnes en dehors de Chine soit encore relativement faible, elles ont un potentiel plus grand épidémie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, s'est rendu à Moscou, en Russie, et a rencontré mardi à Moscou le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, pour améliorer les relations et la coopération dans le domaine de la défense et du génie militaire. Prabowo Subianto, lors d'une réunion avec Sergei, comme cité dans son communiqué de presse mercredi, a indiqué que les relations amicales entre les deux pays dans le domaine de la défense et de la sécurité s'étaient établies depuis assez longtemps. La Russie, qui était auparavant l'Union soviétique, a aidé l'Indonésie dans le domaine du génie militaire. Selon Prabowo, l'Indonésie voulait continuer à développer ses relations avec la Russie. Pendant ce temps, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que l'Indonésie était l'un des partenaires importants de la Russie dans la région de l'Asie et du Pacifique. La coopération avec l'Indonésie, selon Prabowo, est basée sur l'amitié et la confiance mutuelle. Le gouvernement indonésien a préparé diverses infrastructures de soutien pour mettre en quarantaine des centaines de citoyens indonésiens qui seront rapatriés de la province de Hubei en Chine. L'effort est fait pour anticiper qu'ils ne transmettraient pas le coronavirus en Indonésie. Le chef du service d'information de l'armée de l'air indonésien, Fajar Adrianto, a déclaré à Radio République Indonésienne jeudi que si le rapatriement réussit, les trois avions de transporter seront également stationnés dans un parking spécial à un endroit éloigné avec un autre avion. Après que l'avion ait été mis en quarantaine pendant un certain temps, selon lui, tous les passagers seraient envoyés à l'hôpital Sari Asih, au nord de Jakarta, pour une mise en quarantaine. La quarantaine est effectuée afin que ceux qui venaient de Chine ne transmettent pas le virus mortel au peuple indonésien. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a estimé que les courses de MotoGP qui se tiendra à Mandalika, Nusa Tenggara Ouest en 2021 continueront de promouvoir le tourisme indonésien dans le monde. Luhut Binsar Panjaitan a déclaré récemment à Pékin que pour augmenter le nombre de touristes, le gouvernement faisait pression pour la construction de son circuit et il s'agissait d'un circuit de standard international. Il a organisé une réunion avec le président directeur de la Société indonésienne de développement du tourisme, Abdul Bar Mansur, à Jakarta mercredi. Luhut a déclaré que sur la base du rapport du président directeur de la Société indonésienne de développement du tourisme, le progrès de la préparation de MotoGP 2021 était considéré comme très bon et continuait de s'améliorer. Il donne également des directives à la partie de la Société indonésienne de développement du tourisme afin que tous les travaux puissent être effectués en détail et conformément aux normes internationales. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'Angleterre est en état de transition. Aujourd'hui, vendredi le 31 janvier 2020, c'est le moment pour la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne après une longue période en tant que membre. Lors du vote effectué par le Parlement européen sur l'accord de retraite, l'accord Brexit proposé par le Premier ministre Boris Johnson, la majorité a soutenu la Grande-Bretagne à se retirer de la région. À travers le vote qui a été fait, la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne au 1er février demain. Boris Johnson, Premier ministre britannique élu remplaçant Theresa May, a déclaré après son investiture qu'il assurerait le Brexit et unirait le pays. Les conditions rencontrées par la Grande-Bretagne aujourd'hui sont les plus difficiles depuis celles rencontrées par le Premier ministre anglais Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale depuis 1940-1945. Boris Johnson devrait être une figure unificatrice qui empêche le Royaume-Uni de ne pas éclater. Mais la chose intéressante est que la cible des règlements du Brexit d'octobre 1999 à janvier 2020. Le Premier ministre Johnson s'est efforcé pour surmonter le problème du Brexit qui avait été promis. Après la mise en œuvre du Brexit, le Royaume-Uni entrera dans une période de transition jusqu'à la fin de l'année. Pendant cette période, la Grande-Bretagne restera soumise aux droits de l'Union européenne. Beaucoup de gens craignent que durant ces deux années, il y ait une incertitude économique, par exemple dans le secteur du commerce, non seulement le commerce au sein de l'Union européenne, mais aussi les questions de travail. Les travailleurs des pays européens peuvent être renvoyés dans leur pays. Pendant ce temps, ceux qui entreront au Royaume-Uni seront soumis à des restrictions plus strictes. Nous espérons que la Grande-Bretagne pourra traverser cette transition sans agitation significative. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 31 janvier. Le 31 janvier 1926, Nahdlatul Ulama a été créé. Nahdlatul Ulama est l'une des principales organisations islamiques en Indonésie. Cette organisation est engagée dans les domaines religieux, éducatifs, sociaux et économiques. Nahdlatul Ulama a été formée sur la base de la sensibilisation des chercheurs à lutter pour la dignité de la nation par l'éducation et l'organisation. Après une coordination avec divers religieux, un accord a finalement émergé des érudits des écoles coraniques pour former une organisation appelée Nahdlatul Ulama, qui signifie « l'éveil de l'ulama » dans la ville Surabaya, Javaès. Kiai Haji Hashim Asari a été le premier président général de l'organisation. Le 31 janvier 1958, le lancement d'Explorer 1. Explorer 1 est le premier satellite fabriqué par les États-Unis. Explorer 1 a été lancé dans l'espace le 31 janvier 1958 à Cap Canaveral Missile Annex en Floride. Le lancement du satellite est considéré comme un moment très important car à cette époque, les États-Unis et l'Union soviétique se faisaient concurrence dans la technologie spatiale. L'Union soviétique a lancé avec succès son premier satellite nommé Sputnik 1 le 4 octobre 1957. Le satellite Explorer 1, lancé à l'aide de la fusée Juno, était équipé de divers instruments tels que des détecteurs de rayons cosmiques, des capteurs de température, des microphones pour écouter le son de micro-météorites s'écrasant sur les satellites et de nombreux autres instruments. Le satellite Explorer 1 fonctionne normalement depuis 4 mois en envoyant des données à la Terre jusqu'à ce que toutes les batteries soient épuisées et cessent de communiquer le 23 mai 1958. Le satellite est resté à une altitude pendant plus de 10 ans avant de finalement pénétrer dans l'atmosphère terrestre le 31 mars 1970. Le 31 janvier 1961, un chimpanzé nommé Ham a été lancé dans l'espace. Ham est un chimpanzé du Cameroun et est devenu un chimpanzé populaire dans un zoo en Floride aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il soit finalement recruté par la force aérienne des États-Unis pour des expériences spatiales. À cette époque, il n'avait que 3 ans. HEM a été lancé dans l'espace le 31 janvier 1961 à l'aide de la capsule spatiale Project Mercury MR2, un faisceau spatial spécial pour transporter des primates. Le nom HEM est tiré de l'acronyme Holloman Aerospace Medical Center au Nouveau-Mexique, où il était formé avant le lancement ambitieux. HEM est le premier animal capable de survivre dans l'espace. Le chimpanzé a également gagné le surnom de HEM the Astro Chimp. Le vol de HEM dans l'espace est devenu la dynamique initiale de l'exploration humaine en dehors de la Terre. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
C'était la chanson intitulée « Surat undangan » qui signifie « lettre d'invitation » chanté par Nunung Wardiman. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde sur la fréquence de 3325 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Siak je vous entends pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et Singapour renforcent la coopération pour augmenter la compétitivité industrielle. Les gouvernements d'Indonésie et de Singapour sont convenus de renforcer la coopération bilatérale dans les efforts visant à développer la compétitivité du secteur industriel à partir de l'augmentation des investissements à la mise en œuvre de programmes d'enseignement professionnel qui devraient encourager la croissance économique des deux pays. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, après avoir rencontré le ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Chan Chun Sing, au ministère de l'Industrie de Jakarta. Agus Gumiwang Kartasasmita a révélé que les deux pays avaient coopéré pour encourager l'application de l'industrie 4.0. Cela a été indiqué dans la signature du protocole d'accord entre le ministère de la Recherche et du Développement de l'Industrie, le ministère de l'Industrie avec de l'entreprise de Singapour lors de la session de la réunion annuelle du FMI à Bali en octobre 2018. En outre, les deux pays ont établi une coopération pour augmenter des ressources humaines, en particulier en Indonésie, notamment par le biais de programmes de formation professionnelle. Depuis 2018, une formation est organisée pour 100 participants se composant des directeurs d'école, des directeurs adjoints de l'école et des enseignants indonésiens. Cette année, il y aura un cours de formation à la mise en œuvre de l'industrie 4.0 pour 120 participants, y compris le personnel de gestion et les enseignants des écoles polytechniques industrielles. Il encourage l'avenir. La formation a également été suivie pour les instructeurs potentiels de la communauté éducative, car au cours des 5 prochaines années, il a des objectifs à créer 10 000 travailleurs industriels dont les compétences pourront être accrues. Tout au long du premier semestre 2019, Singapour reste un grand investisseur en Indonésie avec la valeur d'investissement de 3,4 milliards de dollars américains. Notre opportunité de coopération, à savoir explorer le développement des zones industrielles intégrées comme zone industrielle de Kendal et dans d'autres régions d'Indonésie en dehors de Java comme Tanah Kuning dans le nord de Kalimantan, Kuala Tanjung dans le nord de Sumatra, Bitung dans le nord de Sulawesi, Batanjung dans le centre de Kalimantan, Jambi et Palu dans le centre de Sulawesi. Il a également affirmé au ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie à la recherche d'investisseurs singapouriens souhaitant développer ces zones. Agus Gumiwang a ajouté que sa partie a proposé à Singapour de participer à la construction d'une zone industrielle d'entretien, de réparation et de révision ou MRO dans les îles de Bintan dont l'emplacement était déjà prêt. En outre, il a également encouragé l'accélération de la coopération dans le domaine de la logistique pour construire un réseau dans l'ASEAN qui sera centré sur Batam, spécifiquement pour soutenir les activités économiques de l'ASEAN. L'Indonésie et Singapour ont convenu de prioriser le développement de l'économie numérique, l'innovation alimentaire et la sécurité. Serge Ritter, CTM Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Aku masih sering bertanya pagi.
Saat hatiku sedang sedih,
bersandarlah padaku.
Voilà la chanson de Ponky Barata et Sophie Navita, dont le titre est Inila Cinta ou en français Voilà l'amour. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel intitulé Gamelle, salade de fruits, la cuisine traditionnelle de Cirebon dans la province de Java West. Le rujak est une salade de fruits, pas comme les autres, parce que celle-ci est épicée. On a différentes versions qui utilisent des fruits de saison, tels que manga, jeune papaye, carambole, jicama, etc. Et le tout coupé avec un couteau dentelé. Et ensuite, cela est trempé dans une pâte de crevettes liquéfiée à laquelle on ajoute du sel et piment. Il existe différents types de salades en Indonésie et chaque région a ses propres particularités. Par exemple, si vous allez à Cirebon, dans l'ouest de Java, vous trouverez une variante de salade nommée le rujak gamel. Appelé gamel parce que ce type de salade vient du village de Gamel, le district de Pleret dans la région de Cirebon. Le rujak gamel est un type de salade de légumes. Il se compose d'épinards bouillis, de nouilles, de choux, de concombres, de tofu. Et on ajoute aussi le kerupuk teles, ces craquelins humides, c'est-à-dire des craquelins qui sont bouillis, donc frits. La sauce de rujak gamelle est également mélangée avec la pâte de crevette. Le rujak gamelle peut être acheté dans la zone touristique de Cirebon, avec un prix relativement bon marché, environ 10 000 rupiah par portion. En plus de profiter de rujak gamelle, essayez une variété d'autres spécialités de Cirebon lorsque vous allez dans cette région. Il y a le tofu gejrot, le riz jamblang et empal gentong. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé « Gamelle, salade de fruits, la cuisine traditionnelle de Cirebon dans la province de Java West ».
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la chanson de Rafika Duri, dont le titre est « Untuk apa lagi » qui signifie « Pourquoi d'autre ?». La rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre « ITB développe une technologie de main bionique pour les personnes qui sont amputées. L'équipe de recherche de biomécanique de la faculté de génie mécanique et aérospatial de l'Institut de technologie de Bandung, ITB, a développé une main bionique pour les amputés. Le développement des mains bioniques vise à aider les personnes amputées en Indonésie à avoir des mains prothétiques ou mains supplémentaires à des prix abordables. Jusqu'à présent, les mains prothétiques ou des mains supplémentaires sur le marché, le prix peut atteindre des centaines de millions de rupiah. Le processus de développement de la main bionique dure environ 8 mois, de janvier à août 2019, à partir de la phase de conception jusqu'au prototype. Dans le prototype qui a été réalisé, la main bionique est capable de réaliser 7 modèles de grippe différents. Ces 7 modèles de préhension sont conçus en fonction des besoins de la plupart des fonctions de la main humaine, de sorte qu'ils sont utilisés pour soulever des objets, tenir des crayons, transporter des sacs, pointer, etc. Cette main bionique a 5 doigts avec 5 moteurs d'entraînement. 2 moteurs sur le pouce pour faciliter les mouvements supplémentaires et 1 moteur sur chaque doigt. Cette main bionique est le résultat du 4e développement. Le développement des mains bioniques est toujours en cours afin d'obtenir des résultats plus stables dans son fonctionnement. Le matériau utilisé sera également mis à jour car il est toujours glissant lors de tenir un objet. « Chers auditeurs, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Hentakan irama dalam lagu, ia mengambil selangkah ke arahku. Hampir ku tak tertahan, ruangan pun seakan meledak apabila disentuh. Ombak yang marah goyangannya seperti api membara nyala tubuhnya. Oh apa dayaku, tak lama ku jatuh di dalam keramaian suasana.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Puncak Asmara, qui signifie le pic de la romance, chantée par Heidi Noor. Nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter magazine musical. Et cette fois, je présenterai une chanson de Nord de Sumatra intitulée Sing Sing So. Cette chanson raconte l'histoire d'un jeune Batak sur son bateau sur le lac de Toba. Il a vraiment manqué son amant. Il espère que le vent emportera son bateau à l'endroit où se trouve son idole. Dans les paroles et le rythme de la chanson, qu'une coque entendra pourra ressentir l'angoisse du jeune homme qui n'habite que le bateau en entendant que le vent l'amène vers la femme qu'il aime. une chanson douce et mélancolique. Bon, cher ami, écoutons maintenant Vicky Sianipar avec une chanson intitulée Sing Sing So. Merci à tous et au revoir.
Thank you.
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Tulangi. tersongo. Parbicar ni mata ni arida.
C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voinews.it. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.